Conseil de sécurité de l'ONU
a condamné
immédiatement.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur.
Ouais. J'ai vu Brel.
Les présidents, ils sont pas pour nous.
C'est moi. Vous pensez tous que César est un con.
Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes?
12, 11, 10, 9, ignition sequence start.
Mesdames et messieurs, culture générale.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacrée à l'Australie. Si vous ne connaissez pas l'Australie, c'est sûrement que vous n'avez jamais vu Hartley Cœur et Vif. Mais heureusement, comme d'habitude, on est avec les meilleurs. J'ai nommé Marlène, Jean-Baptiste
et
Drasic pour parler de l'Australie. On va tout de suite écouter un petit extrait sonore pour se mettre dans l'ambiance.
Good day, mates. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans la plus belle ville d'Australie. J'ai nommé Sydney, bien sûr. J'y ai vécu pendant un an et je vais partager avec vous mes coups de cœur. Et vous verrez, il y en a des pas mal. Alors, en premier lieu, on ira voir la baie. On pourra visiter le symbole de la ville, un chef-d'œuvre de l'architecture, l'opéra. On ne se contentera pas d'un simple arrêt sur les marches. On ira profiter des larges promenades aménagées tout autour du bâtiment. Les points de vue sur la baie sont les meilleurs de la ville. Ensuite, on ira manger un bout dans un super endroit. Ça s'appelle le Harris Café. On y trouve les meilleurs meat pies de la ville.
Voilà, voilà, c'est pour le meat pies. C'est séduisant l'Australie, beaucoup de jeunes y vont.
Comment elle s'appelle cette jeune dame?
Je sais pas, elle a un vlog.
Non mais on peut l'embaucher pour qu'elle est complètement dans le ton de Culture 2000.
Ah mais tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça vous évoque l'Australie? Je commence par toi Marlène.
Bah, l'Australie, tout d'abord, c'est surtout grand, vraiment très grand. Et c'est loin, très très loin.
D'accord.
Donc ça t'évoque de l'angoisse en fait?
Non, non, pas de l'angoisse. C'est vraiment, c'est très attirant tout cet exotisme. Non, mais en vrai, donc, l'Australie, c'est grand pour commencer. Donc ça fait 7,7 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire...
Je te demandais juste tes premières impressions parce que je vais faire un petit tour de table. Mais si ça t'évoque, c'est long.
Et ça peut peut-être l'évoquer.
JB, ça t'évoque quoi toi?
Moi, ça m'évoque Bernard et Bianca 2. Une excellente
au pays des kangourous.
Au pays des kangourous.
Exactement, moi, on va pas dire Australie, on va dire pays des kangourous.
Exactement, d'ailleurs, c'est comme ça. Australie ouais, n'est pas nommée.
JB, non, JB, c'est déjà
JB, c'est Drasic.
Drasic, Drasic, toi
Moi, ça m'évoque le didgeridoo de mon père quand il est en
France. Non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Il l'amène même pour ses 60 ans.
Ouais. D'accord, eh ben, tu m'inviteras la prochaine fois.
J'hésiterai pas.
Moi, ça m'évoque pas grand chose à part le permis vacances-travail, hein. Les Australiens qui font du surf. Et ACDC. Voilà. Donc voilà, c'est après cette fabuleuse petite introduction, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du
sujet. Personne ne t'avait posé la question à toi, Greg. Donc
ah mais moi, je me réponds moi-même. Voilà. Où est-ce qu'on est, justement? On est en Australie, le pays des kangourous.
Exactement. Et l'Australie, c'est, comme son nom l'indique, c'est le Grand Sud.
Eh oui.
Donc ça a encore un nom qui a été choisi par les Européens, on y reviendra. Hein.
Alors un petit point géo. C'est loin? C'est grand, tu nous as dit Marlène, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Je sais pas, je suis peut-être un peu vexée encore. Non mais bon, bah oui, voilà, c'est grand, ça fait 14 voies la France, ça nous amène vraiment, ça nous sert vraiment de
moi,
le savoir.
Moi j'avais noté une comparaison en terrain de foot pour nos auditeurs qui nous suivent depuis l'Amazonie, mais alors, mon calcul m'amène à 1 milliard de terrains de foot.
Ah bah oui.
Bon, c'est pas très utile et puis je suis pas sûr de mon calcul, mais voilà, non. Grosso modo. C'est plus gros que l'Amazonie, si ça peut aider.
C'est plus grand.
Mais c'est pas le troisième pays du monde, un truc comme ça?
6.
Sixième pays du monde.
Après ouais. Je l'ai vu tous les six.
Les États-Unis,
non,
la Russie.
Non. Russie, le Canada.
La Chine. Il y a de la Chine.
La Chine.
States après.
Ah mais il faut les donner dans l'ordre en plus.
Bah ouais.
J'en donne 6 moi c'est tout.
Bon, bref,
après,
on s'égare.
Il y a la grandeur de la France mais ça compte pas en kilomètres.
Ouais, c'est vrai aussi. On s'égare. Donc évidemment on est dans l'océan, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. On a comme voisins la Nouvelle-Zélande, le Timor.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L'Indonésie, ça tout. Il n'y a pas de frontières communes mais bon c'est juste à côté. En tout cas c'est là que les Australiens vont en vacances.
Mais de toute façon ceci tu dis une chose vrai, c'est qu'il n'y a pas de frontières communes avec personne parce que c'est une île en fait, c'est une grande île.
Seulement des frontières maritimes. Quoi.
Ouais.
Habile.
Voilà, non mais donc surtout c'est très loin, tellement loin que donc c'est à 17 000 km de l'Angleterre, le pays, la mer de l'Australie, puisque rappelons que la reine d'Angleterre est toujours le chef de l'État australien.
Et on
et elle nous écoute.
On lui dit kikou.
On lui dit kikou. Alors des climats différents, mais globalement il fait très très chaud. Hein, enfin il fait très très chaud à part dans le sud-est où là c'est méditerranéen.
Ouais, il y a quand même une variété de shows, ça c'est chouette.
Ouais, t'as tous les shows.
On part de méditerranéen, il y a du tempéré, il y a même un peu d'océanique, de l'aride, du semi-aride. Il y en a
pour tout le monde. Du tropical au nord.
Voilà, donc juste un petit climat alpin pour l'hiver, mais sinon il y a tout.
Voilà, bon bah écoutez.
Et il y a aussi toutes les bêtes.
Ça c'est cool parce qu'il y a quand même pas mal de bêtes et pas mal de plantes.
Alors, ça c'est vraiment intéressant.
Qu'est-ce qu'on a comme bête cool?
Bah, y a l'ornithorynque, hein, surtout le plus cool du monde. C'est une espèce de loutre avec une queue de castor et un bec de canard.
C'est le c'est un
déguisement un des seuls mammifères qui pond des œufs. Bref, c'est un truc qui ressemble à rien quoi.
On a des kangourous,
des crocodiles,
des dingos.
Le diable de Tasmanie.
Le diable de Tasmanie.
Et il y avait le tigre de Tasmanie qui a disparu en 1936. J'ai vu des photos, ça avait l'air trop mignon. C'est un genre de chien avec des rayures, quoi. Voilà.
D'accord.
Il
cool,
y a le koala aussi. Hein.
Le koala, évidemment, pas. Avec qui branche de l'eucalyptus. Je m'y connais sur le koala, je vous ferai peut-être.
Mais vous oubliez surtout qu'il y a vraiment beaucoup de lapins.
Oui.
Et c'est vraiment marrant, un fait assez drôle. C'est que en fait, il y a un Anglais, donc Thomas Austin, qui en 1859 décide d'amener des lapins parce que ça lui manque. En fait
c'était un chasseur. Aussi, ouais. C'était un chasseur,
et
il a la nostalgie de la chasse.
Et donc, il ramène 12 coupes de lapins qui, en fait, 50 ans plus tard, sont 600 millions.
Ouais.
Donc, en fait, c'est les rats de l'Australie, clairement.
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pour chasser les lapins, ils se sont dit, merde, on n'y arrive plus. Donc, on a fait venir des renards. Sauf que ces cons de renards, au lieu de chasser les lapins, ils ont chassé les trucs qui étaient plus faciles à bouffer. Et donc, il y a pareil surpopulation de renards, surpopulation de lapins. Ils ont fini par lâcher un virus dans les années 1950.
La myxomatose.
Ouais, pour tuer les lapins. Mais bon, ça n'a pas encore tout à fait bien pris.
Bah, au moins, ils ont à bouffer. Et s'ils ont ramené des lapins, c'est qu'ils avaient rien à bouffer. Bon, tu vois, c'est cool. Maintenant, ils peuvent
bouffer. Bah, ils bouffent ce qu'ils veulent bouffer, donc je crois que c'est pour ça que ça les dérange un peu.
En plus, ils ont bouffé tous les koalas. Je sais pas pourquoi je dis
donc
ça.
Donc ça, c'est vraiment la grande part d'exotisme de l'Australie, le lapin.
Un très exotique, il y a les moutons aussi. Moi, je me rappelle que mon prof d'anglais, quand j'étais en 5e, m'avait appris qu'il y avait plus de moutons que d'habitants en Australie.
Voilà. Oui, donc, priori, il y a plus de kangourous aussi.
Il y a plus que 23 millions de moutons, parce qu'il y a 23
millions. Parce que on l'a dit, ça. Non, on l'a pas dit. Il y avait 23 millions. 23 millions, c'est rien du tout. Hein.
On est parti sur les lapins. Mais pas des
parlons des 600.
Pour
600 millions.
La France.
14 fois la France. Retenez bien ces chiffres. 14 fois la France. 600 millions de lapins, 23 millions d'habitants. Et ben voilà. On connaît bien l'Australie maintenant. Quelque chose d'autre à dire. Ouais, du désert, quelques montagnes à l'est. Bon, bah voilà, un beau petit pays. Hein.
Si, ouais, du corail un petit peu.
Ça, la barrière de corail, c'est important.
La barrière de corail du monde, qui fait 2000 km de long, je crois. C'est pas mal.
Voilà, je pense qu'on a fait notre part de chiffres maintenant.
On a fait des chiffres, on va parler, un petit peu d'histoire non, maintenant.
Allez.
Ça vous va ? On fait un jingle histoire ? Ah, il y en a pas.
Tu te mets pas. Histoire. Non, on pourrait dire histoire.
Alors, on est en moins 50 000, messieurs, dames. Qu'est-ce qui se passe en moins 50 000 ?
Bon, moins 50, moins 60, en fait, on n'en sait trop rien, mais ce serait là où les premiers Manos débarquent en Australie, en fait. On
d'accord.
Une période glaciaire, ce qui fait qu'à cette époque-là, bah, les continents, les terres émergées sont plus nombreuses. Et donc, apparemment, il y aurait des gens venus d'Asie, voire peut-être même d'Afrique, qui s'emmerdaient. Ils ont fait une grosse rando, ils sont installés en Australie.
Grosse rando.
Parce qu'en fait, à ce moment-là, du coup, les îles les plus au nord de l'Australie se situent seulement à 12 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, ils pouvaient aller à pattes en Australie.
Ouais.
Quoi.
Et ça, je crois même qu'il y a débat sur les géologues, parce que certains disent qu'il y avait quand même un tout petit bras de mer, effectivement, de quelques kilomètres. Donc, pour eux, les premiers aborigènes seraient venus à la nage. Il y en a d'autres qui disent que carrément, en fait, les plaques se touchaient complètement et qu'il y a eu des périodes où il n'y avait même pas de bras de mer entre les deux.
Ouais. Il y en a qui disent aussi qu'ils sont venus avec une tyrolienne géante qui était là, installée par les dieux.
C'est des historiens autrichiens.
Donc, en moins 40 000, on retrouve la trace de l'homme de Mongo. Oui, à côté du lac de Mongo. Voilà, c'est le seul fait que j'ai à dire là-dessus.
Ouais, non, ce qui est intéressant, en fait, sur ces manos, c'est que, en fait, on considère que la civilisation qui commence à se développer en Australie, c'est la civilisation qu'on connaît à travers les aborigènes. Et donc, du coup, ça fait des aborigènes dont on va beaucoup parler aujourd'hui, une des civilisations les plus anciennes encore existantes. Avec juste le petit souci, c'est qu'ils ont une tradition orale, donc il n'y a pas méga archives et méga traces à explorer, mais toujours est-il qu'on a une continuité, a priori, de cette civilisation-là jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, l'autre petit souci, c'est qu'ils sont quasiment tous en train de mourir, ou qu'ils sont tous alcoolos, donc ils ne doivent pas se rappeler de grand-chose. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que...
Salut aussi, Elisabeth.
À l'époque, au XVIe siècle, on se doute qu'il y a l'Australie. Tout le monde se dit, je suis sûr. Les mecs se disent ça entre eux. Hein. Je pense que les explorateurs, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a un truc là-bas.
Bah en fait, même bien avant, dès le 1er, 2e siècle, on se dit qu'il y a sûrement une île au sud de la Terre qui contrebalance le reste des continents et qui donc fait contrepoids. Mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas trop. Et du coup, elle est cartographiée comme la Terra Incognita, donc la Terre inconnue.
Donc voilà. Elle est inconnue, mais elle est déjà connue, c'est incroyable. Alors moi, j'ai un petit, j'ai une petite chronologie là, des découvertes, donc je vous la fais rapidement. Hein. Ouais, accrochez-vous parce que ça va y aller vite. Alors, 1522, Cristóvão de Mendoza. Visiblement, c'est lui le premier qui arrive. Bon, après, on parle de Chinois.
Visiblement, il est portugais.
Alors, visiblement, il est portugais.
Moi, je te coupe cash dans ta chronologie. Premier occidental, en fait, parce que lui-même serait arrivé.
Je disais qu'il y avait des Chinois.
Parce que voilà, les Chinois avaient déjà découvert et que, par contre, à l'époque, ça rejoint ce que disait Marlène. On ne sait pas, quand il découvre l'Australie, là, ce petit portugais dont j'ai déjà oublié le nom, il ne sait pas qu'il a découvert l'Australie. Il pense qu'en fait, il a découvert le continent antarctique. En fait, on ne sait pas qu'il y a une séparation entre les deux.
Alors, je continue. 1606, un Hollandais, William Jens, il vient. On ne sait pas trop ce qu'il fait, il vient. Après, en 1607, ça c'est plus tard. Ah si, 1607, pardon. Valdez de Torres, un Espagnol, enfin un Espagnol, on en voulait un. Et après, il y a.
T'as bossé, Greg, hein. Oh, c'est rare que tu les bosses comme ça.
Ça, tout ça, je l'oublie directement après, hein, vous inquiétez pas, mais au moins je
pense que tout le monde aussi.
attendez, parce que là c'est marrant. En 1616, c'est Dirk Harvey qui arrive, et il est Hollandais également. 1623, il y a Yann. Et en 1642, il y a Abel Tasman.
Ouais.
Eh ouais.
Voilà.
Monsieur Tasman.
Monsieur tout Tasman,
ça,
c'est
tout
ça.
Tout ça pour arriver à un truc un petit peu cool.
J'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que tu allais nous dire qu'il y avait quelqu'un de ta famille qui avait découvert l'Australie avec ta liste.
Absolument pas. par contre, il y a un Français, c'est Thévenot qui vient à ce moment.
Bougainville aussi.
Mais Abel Tasman, ce qui est intéressant, c'est que son petit nom va être utilisé plus tard pour donner, nommer une terre, une petite île qui est au sud de l'Australie qui s'appelle la Tasmanie aujourd'hui.
Exactement.
Le fameux Taz.
Mais en gros, pour peut-être résumer un peu ce que tu dis, c'est que les premières découvertes, c'est grosso modo au XVIe siècle. Et après, c'est au XVIIe siècle qu'on a régulièrement des explorations qui sont soit le fait d'explorateurs ou alors de marchands européens qui commencent à venir se dire qu'il y a peut-être de l'intérêt d'explorer les terres, voir les ressources et faire du commerce avec eux.
Mais il n'y a toujours pas vraiment de colonies. Et surtout, il n'y a toujours pas eu d'Anglais qui s'est pointé, en fait.
Non, mais il y a aussi beaucoup de navigateurs qui viennent faire de la chasse à la baleine autour des côtes australiennes. Mais... Ouais. Encore une fois,
c'est les Néerlandais, ça, non, je crois.
Les Néerlandais, mais aussi pas mal, hein. Des Américains.
Les Néerlandais, je sais qu'avant les Anglais, en fait, au XVIIe siècle, c'est eux qui vraiment viennent régulièrement parce qu'ils sont, en fait, leur base arrière, c'est l'Indonésie, qui à l'époque est une colonie.
C'est leur terre, ils sont pas très loin.
Ils sont pas loin, ils pourraient vraiment. Bon, en tout cas,
ils commencent à explorer. C'est eux qui font les premières cartes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils font des cartes de la côte ouest, alors que pourtant, c'est sur la côte est que les Anglais vont débarquer.
Moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de mecs qui viennent et qu'il n'y en a pas un qui se dise bon, vas-y, pour mon bon roi, je fous un drapeau et puis j'y vais, quoi.
Faut dire que ça reste quand même une île, bon, déjà pas forcément hyper
proche. c'est pas les.
Pas hyper
c'est
proche.
Pas l'île de Léron,
éloigné des grandes routes maritimes, donc. Qui sert pas beaucoup pour le commerce à l'époque, et puis au climat pas forcément facile non plus, enfin voilà, avec beaucoup de désert comme on l'a dit au départ. Donc,
Et puis il faut rappeler qu'on est dans un, pour le coup, alors là c'est plutôt au 18e, mais on est dans un contexte général de grosses compètes entre les grosses nations pour la colonisation du monde entier. Enfin, le 18e siècle, c'est vraiment le siècle de la colonisation. Et du coup, en fait, il n'y a pas que l'Australie, quoi. Surtout les Français et les Anglais sont déjà occupés.
C'est vrai que c'est peut-être un peu trop de boulot pour
s'occuper de tout le reste du monde. Et donc,
Et d'autant plus que l'éloignement fait qu'il n'y a pas de grosse flotte, en fait, qui puisse permettre de lancer une colonisation. Parce que, mine de rien, il faut un petit peu du manos pour installer tout ça. Ouais, quoi.
Du matos.
Il y en a deux, trois qui doivent quand même s'échouer. Il y a des histoires de bateaux qui s'échouent et des mecs qui restent un petit peu. Toujours est-il que le premier Anglais, il arrive en 1688.
Tom Hanks, je crois, qui s'échoue.
Tom Hanks, c'est possible. Et là où ça va vraiment basculer, c'est au moment où il y a le capitaine Cook qui arrive en 1770. Et lui, il se dit, vas-y, rien à foutre, moi je fous le drapeau. Et il prend au nom de la couronne, les deux tiers de l'île.
D'ailleurs, il n'avait été même pas spécialement invité ou missionné pour le faire. En fait, Cook, c'est un type qui va mener pas mal d'explorations et notamment aussi dans un but un peu de servir la science. Hein. C'est un autre moteur d'exploration à ce moment-là. Et donc, le Captain Cook va du coup découvrir, on lui attribue, mais on vient de dire qu'on connaissait déjà bien avant.
Non, il ne découvre pas.
Ce qui est intéressant, il prend possession et surtout, il va cartographier, notamment la côte est.
Absolument.
Et c'est aussi pour ça que ça va influencer derrière l'arrivée des Britanniques, en fait. C'est parce que lui, il va vraiment s'embêter à longer la côte. Même à un moment, il s'échoue sur un récif et ils ont peur de tous mourir. Donc, c'est le type qui va vraiment longer les côtes et donc cartographier. cartographier pour préparer finalement ce qui sera plus tard la colonie.
Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est l'histoire des Français qui est un peu toujours l'histoire de la loose face aux Anglais dans la colonisation. Où, Louis XVI a envoyé une expédition qui est partie avant le capitaine Cook, mais qui est arrivée juste après. Donc,
ouais, coup, pas de chance, deux jours après. Mais ceci dit, ils auraient pu prendre la côte ouest, hein, tu vois, il suffisait de mettre un drapeau, personne n'en voulait.
Ils ont pris la Polynésie en fait. Bon, c'était un peu moins grand quand même, ouais, c'est un peu perdu quoi.
Mais alors moi, j'ai entendu les mêmes trucs que vous sur il prend possession des deux tiers, mais il y a quand même un truc qui n'est pas clair là-dessus pour moi. C'est qu'on dit qu'il prend les deux tiers, mais grosso modo... Mais
clairement, fait, il n'a pas été sur les deux tiers, ah oui, non, ça c'est sûr. Mais...
Il a découvert une petite baie, et après, pendant des décennies, les Anglais vont s'installer juste sur deux, trois baies au sud-est, c'est tout, quoi.
Ouais. Ouais, d'ailleurs, ils sont plutôt à côté de... Enfin, à l'actuel Sydney, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ça s'appelle Port Jackson.
Port Jackson. Et dès cette époque, ils font déjà un petit pénitencier, en fait, quoi.
Ah bah oui, clairement, en fait, ils installent une colonie là-bas, qui est une colonie pénitentiaire, où ils exilent les bagnards d'Angleterre. Quoi.
C'est ça qui est marrant, c'est de se dire que l'origine occidentale de la nation australienne, c'est juste des tollards dont on voulait plus chez nous. Des mecs qu'ils ont foutus dehors, et il faut s'imaginer en plus...
Assez loin, quoi.
Dans les conditions de l'époque, c'est ça, c'est que la traversée... Donc on est 18 ans après l'arrivée de Cook. Donc là, on est en 1788. Et en fait, il lance des bateaux qui partent d'Angleterre, une flotte qui voyage pendant 8 mois. Donc je crois qu'il y a, 10 ou 20% des mecs qui meurent en chemin.
Mais aussi des bébés. Il y a une vingtaine de bébés qu'on suit à bord.
Oui, parce qu'ils emmènent des prostituées avec quand même.
Ah bah oui, oui, bah, d'accord.
Et puis surtout, dans les condamnés, il y a de fait des femmes. Mmh. Alors, c'est pas les pires bannières de l'époque. Hein. C'est pas genre les marques du trou ou les affreux découpeurs de je sais pas quoi.
Marques du trou.
C'est en général les petits voleurs à la tire. C'est des mecs qui sont pas les pires jojo, mais qu'on souhaite éloigner. On est aussi, en fait, à ce moment-là, en Europe, dans la théorie de il y a trop de monde, en fait. On étouffe et donc, du coup, il faut se donner de l'air.
Ce qui est aussi une théorie qui arrange bien les Européens, parce que leur but, c'est quand même d'occuper à peu près les trois quarts de la planète. Donc, pour l'occuper, il faut le...
Théorie, il y a trop de monde. Et aussi, il y a aussi la théorie de, en fait, il n'y a personne ici, donc on peut y aller parce qu'il n'y a personne. Alors que, bon, apparemment, il y aurait... selon les chiffres, 350 000 aborigènes sur le territoire. Mais quand Cook il arrive, il fait bah vas-y, j'ai mis le drapeau, j'ai vu qu'il n'y avait personne en fait. C'est ça, c'est un petit peu ça quoi. C'est un peu façage quand même, non?
En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est venu après cette histoire de terre vide, terre inconnue. C'est dans un premier temps, que ça soit Cook ou que ça soit, je crois que c'est Arthur Philippe, le commandant de la flotte qui amène les bannières, eux ils essayent vraiment de lier le contact avec les aborigènes et ils ont même à l'origine l'ordre de nouer des relations en fait. En fait, c'est progressivement que ça va s'envenimer parce que forcément, les aborigènes, ils ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée des mecs.
Ils sont pas très cool,
et
quand
c'est
même.
Plus tardivement en fait, qu'on finit par décréter bon, il n'y avait personne. Et point, quoi. Parce qu'on n'y arrive pas, ils nous font chier.
Malin.
Donc,
hein.
Ah, je te vois plus.
Malin, ça, c'est vrai que c'est très, très malin.
Ouais, puis il y a toutes les. Enfin, ouais, dans la foulée de ce que dit JB, toutes les histoires de. Les premières relations, enfin, c'est un peu, on croirait lire les mythes du bon sauvage. Quant à donc, la première colonie, elle est dominée par le gouverneur Philippe. Qui leur but c'est de trouver des médiateurs, ils appellent ça. Comme ils n'arrivent pas à les trouver, en gros, ils vont enlever des mecs dans leur village. Ils en essayent deux trois, évidemment ça marche pas, les mecs s'échappent. Et ils arrivent à en choper un qui s'appelle Bénélong, qui est devenu célèbre parce qu'en gros pendant une dizaine d'années à peu près, il va servir de médiateur entre. Et en fait, il va naviguer, il va vivre quelques mois avec les Britanniques.
Ouais, en gros, c'est
après...
un collabo, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Bah, en fait, il a un rôle ambigu, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est un peu un collabo parce qu'en fait, il accepte le deal avec les Anglais, il apprend l'anglais, il reste pendant 8 mois, après, il se casse. Donc, il retourne dans ses colonies. Après, il revient. Il y a un pacte avec le gouverneur Philippe et ça va être le premier aborigène qui va voyager en Grande-Bretagne. Donc pareil, hein, il voyage en Grande-Bretagne, il part avec un copain à lui et c'est en voyage, ils mettent 2 ou 3 ans aller-retour, le temps d'aller voir Londres et de revenir. Quoi.
Et quand il revient, il vire pas un peu de bord?
Bah en fait,
il est plus collabo, non?
Il vire alcoolique, je crois.
Surtout, c'est un type qui prête jamais vraiment allégeance non plus et qui passe son temps à s'évader. Et ça, c'est vraiment une évasion. C'est-à-dire que le type, il est le bienvenu, mais concrètement, il est le bienvenu à rester. Quoi. Il n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Et donc, c'est certes, progressivement, il accepte d'aller en Angleterre, mais en fait, c'est plus qu'une proposition vacances. À mon avis, il avait intérêt à dire oui. Quoi.
Bah, c'est vacances, mais pension complète, c'est tout.
C'est ça.
Mais il y a quand même un peu, en schématisant, deux courants. T'as les mecs type Bénélong qui arrivent à accepter de faire de la médiation, plus ou moins de leur plein gré. Et t'as des gens qui vont quand même s'opposer beaucoup plus frontalement. Et c'est marrant parce que c'est difficile de trouver des infos là-dessus, notamment parce que l'historiographie britannique a un peu caché ça. Mais t'as eu des résistances aborigènes dès le départ.
Oui.
Un mec qui s'appelait Pemulwuy, rien à voir avec Émile Louis, mais qui voilà
deux
qui a mené.
Déjà, c'est ton côté révolutionnaire. Faut que tu nous parles du révolutionnaire aborigène.
C'était justement. Bref, et voilà, et lui c'est un exemple d'aborigènes qui ont résisté, qui ont mené des attaques contre les colons, mais évidemment ils n'avaient pas les armes à feu, ils se sont vite fait rétamer quoi.
Ouais, moi j'ai entendu parler d'un mec qui se faisait appeler Pigeon. Alors je sais pas pourquoi il se faisait appeler Pigeon, mais c'était dans les années 1880 ou 90, donc on est plus de 100 ans après le débarquement et la colonisation. Il y a encore des phénomènes de résistance aborigène. Et en gros, il y a des campagnes de pacification, surtout que le territoire est hyper vaste, jusque dans les années 20. Donc effectivement, il y a une résistance de longue haleine.
Alors toi, tu étais en 1890, en 1829, je reviens un petit peu en avant, c'est à ce moment-là que toute l'île est britannique, bon que là, il n'y a plus trop de problèmes, on va pas se dire, il y aura les Français de l'autre côté, on va faire une guerre, bah non, ça n'arrivera pas. Et puis on commence à vivre, la colonisation se développe, on commence à faire des trucs, à élever des bêtes, à faire de la laine, des choses comme ça.
Et notamment la colonisation se développe aussi au début parce qu'il y a une ruée vers l'or en Australie, enfin ce dont on n'a pas encore parlé. Il va y avoir vraiment l'envoi de main d'œuvre pour exploiter les ressources minières de l'Australie qui sont nombreuses, donc notamment de l'or, mais aussi je sais plus, là ça me revient plus.
Oui, il y a plein d'autres minerais. Du cuivre et du plomb, voilà. Il y a plus tard de l'uranium, mais pour l'instant.
Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que l'image et la population occidentale, encore une fois, de l'Australie commence à changer. Parce que, en gros, la première moitié du 19e siècle, c'est sur le même modèle que la première colonie dont on a parlé, là, de Philippe, où je crois qu'il y en a 5 qui se constituent dans les premières années. À chaque fois, c'est le même modèle. On envoie des bagnards, donc ils continuent ça, hein, c'est pas que la première fois. On envoie des bagnards sur une baie, on les fait s'installer, et progressivement, ces bagnards sont réintégrés à la société civile. Et en fait, c'est très pratique. Pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi, au-delà de dépeupler l'Europe? C'est que ça permet d'avoir une main-d'œuvre très bon marché pour construire une nouvelle société, en fait. Donc toutes les infrastructures, etc., sont faites par ces bagnards. Et la sociologie un peu de la population se transforme effectivement, comme disait Marlène, à partir de des années 1850, où là on découvre qu'il y a de l'or. Et donc, là, même phénomène qu'aux États-Unis, plein de petits malins qui arrivent.
Et puis la colonie devient plus seulement une colonie où on envoie des bagnards, mais une colonie qui sert à envoyer des ressources et à exporter des ressources vers l'Angleterre. Voilà.
Du coup, en fait, les bagnards, on arrête d'envoyer des gens en 1868, donc ça a duré un peu moins d'un siècle. On a un peu moins d'un siècle, c'est environ 160 000 bagnards qui ont été envoyés en Australie. Et effectivement, en fait, ce qui va mettre fin, alors il y a une campagne en Angleterre qui dit que c'est vraiment pas bien d'envoyer des gens en bagne, mais t'as aussi, en fait, concrètement, des mecs qui vont commencer à gueuler en disant que les bagnards, comme ils bossent gratuitement, ils font de la concurrence aux travailleurs émigrés qui sont arrivés.
C'est comme aujourd'hui.
Ouais. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas eu l'idée, pour le coup, de ramener des Africains. Et du coup, en fait, il n'y a pas de
blague.
Ou des Indiens, quoi.
Il y a un truc similaire.
Ou des Indiens, ouais.
Ils vont utiliser les aborigènes, et c'est un peu ce qui va sauver, entre guillemets, les aborigènes. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début de la colonisation britannique, on estime entre 300 000 et 1 million d'aborigènes présents. On n'a pas le chiffre exact. Et en fait, comme dans toutes les grandes découvertes avec confrontation de deux populations qui ne s'étaient jamais confrontées, non seulement il y a des massacres, mais en plus, il y a la variole qui va faire des gros, gros ravages.
Absolument.
Et la population aborigène, elle va chuter. Je crois qu'on est à 50 000 personnes en 1900 à peu près.
Ouais, moi, j'avais 90% de la population aborigène qui disparaît quelques
années. Avec l'alcool et puis aussi
Surtout séparation. Avec les maladies, comme disait.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a 450 000 aborigènes à peu près. Donc, on est.
Ça s'est maintenu en fait.
On est deux siècles et demi plus tard et finalement, la population est quasiment la même.
Oui, et en sachant que tout est bien qui venait bien.
Ce qui veut dire qu'il y a eu une vraie diminution de la population à ce moment-là.
Et en plus, sachant que c'est déclaratif parce qu'il y a des mecs qui ont 1% de gènes aborigènes et qui se déclarent aborigènes.
Exactement.
Et ce qui était marrant, du coup, pour revenir sur l'histoire de l'exploitation, c'est que les aborigènes, à un moment, ont été sauvegardés. Donc il y a eu des mesures pour interdire le lynchage ou les tueries d'aborigènes parce que les aborigènes constituaient une bonne main-d'œuvre pour les mines. Donc le premier acte en fait de protection de cette population. population indigène, ça a été pour pouvoir l'exploiter en fait.
Ouais, ouais. Moi, il y avait un truc qui était un peu marrant. Est-ce que quelqu'un veut en parler avant la pause musicale? Des Bush Rangers, ça vous dit quelque chose?
Ouais, ouais, ouais.
Vas-y.
C'est les hors-la-loi australiens.
Bah,
oui, justement, c'est les anciens bagnards qui se sont cassés. Enfin, des anciens bagnards qui sont échappés de la colonie et qui du coup vivent en hors-la-loi à l'intérieur des terres. Et c'est un phénomène qui se développe beaucoup justement au moment de la ruée vers l'or. Et apparemment, ça a créé pas mal de mythes un peu romantiques, la même chose que sur le Far West, quoi. Avec certains qui se décrètent comme des rebelles
un peu
politiques,
Robin des Bois,
voilà, un peu Robin des Bois. Et voilà, certains.
Un peu soutenu par les populations
c'est
parfois.
Ça. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais auraient plus fraternisé avec les aborigènes que le colon classique.
Ouais,
quoi, on va
dire. Il s'appelle Bush Rangers, on ne l'a pas dit, c'est parce qu'ils squattent dans le bush. Le bush, c'est. C'est quoi, hein, c'est quoi?
C'est cette espèce de savane finalement, c'est le paysage de campagne australien. Me trompe, Joanne?
Non, absolument pas.
Non, mais c'est ça, c'est un espèce de broussaille très clairsemé ou semi-aride ou aride, ouais. Où il fait très chaud et donc qui est plutôt pas très accueillant à la base.
Exactement, donc il faut être des durs, des vrais pour survivre là-dedans, CF Crocodile Dundee.
Et du coup, eh bah, pour conclure vite fait sur ce 19e siècle, en fait, cette ruée vers l'or et cette économie qui commence à développer, on a dit tout à l'heure de la laine, donc de l'agriculture d'exportation, tout ça, en fait, on passe de la phase 1 où on arrive sur les côtes avec les bagnards et on crée des petites colonies, à une phase 2 où on va découvrir l'intérieur du continent. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au bout de 70 ans de présence anglaise, on ne connaît toujours pas l'intérieur des terres. Et donc, il y a une exploration progressive qui se fait. Alors, on l'a beaucoup romancé dans l'histoire en disant c'est des mecs un peu aventuriers qui ont envie de découvrir ça. En fait, non, c'est surtout de l'exploration minière pour l'or et d'autres minerais qu'on va découvrir. Donc là, on commence à rentrer dans l'intérieur et à aller découvrir encore des nouveaux aborigènes.
Bon, bah là, on n'est pas au 19e, on est plutôt en 1980. Et on écoute Men at Work. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? Six foot five.
Est-ce que tu l'as choisi parce qu'il y a des flûtes et ça te fait penser aux aborigènes?
J'adore cette chanson, ouais, exactement. Ça fait un peu penser à Johnny Clegg, en fait. Ça n'a rien à voir, on n'est pas au même endroit, pourtant.
Un blanc avec des noirs.
Pourtant, ça reste... Peut-être que ce qui me fait penser à ça, c'est parce que c'est deux pays du Commonwealth, en fait, non?
Ah, parfait.
Ah, putain, quel enchaînement. 1901, indépendance. Eh oui, les gars. Eh oui, les gars. Finalement, il y a une indépendance, mais bon, elle est modérée. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu tout ça?
Bah, c'est marrant parce que c'est une indépendance qui n'a pas un poids énorme dans l'histoire de la nation australienne telle qu'elle se pense aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas une vraie indépendance. En gros, le Royaume-Uni développe une stratégie un peu particulière avec ses colonies de peuplement. Donc là où ils ont mis des blancs un peu partout, ou là où il y a des blancs sous leur territoire possédé. Donc ça va être le Canada, ça va être l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et donc on va créer ce qu'on appelle le Commonwealth, la richesse commune, pour dire qu'en fait, on est tous de la même famille et qu'on s'aime tous très très fort, et donc on va tous bien se mettre malgré tout dans la ligne définie par l'Angleterre. En fait, c'est un moyen de se dire, on garde notre empire,
exactement,
mais on lâche un peu du lest, les mecs ils se gèrent tout seuls parce que c'est des blancs donc ils savent faire, et en même temps ils restent bien dans la ligne.
De toute façon, ils parlent notre langue, de toute façon ils veulent nous vendre des trucs, de toute façon c'est encore... Non mais c'est vrai en fait.
Non mais en fait c'est qu'ils sont malins, ils sentent un peu le vent tourner aussi, et ils se rendent compte que... Enfin, ils se rendent compte, ils le savaient je pense dès le début, mais le but de la colonie c'est avant tout une domination économique et pas politique, et le Commonwealth ça permet exactement ça. Gérez-vous politiquement et administrativement comme vous voulez, nous ça nous coûte trop d'argent, par contre on va continuer à avoir la main mise sur les ressources.
C'est ça, c'est des états indépendants et librement associés.
Oui, mais en effet, comme l'a dit JP, du coup c'est vraiment pas une date spécialement importante dans l'histoire australienne, et d'ailleurs tellement pas qu'en fait la fête nationale c'est bien le jour de la fondation de Port Jackson, donc de la première colonie, et pas du tout le jour de l'indépendance australienne.
D'ailleurs, les aborigènes appellent ça le jour de l'invasion. Je crois qu'il y a un petit problème de mémoire.
C'est marrant, dis donc.
C'est pas pareil. Moi, je trouve ça un peu marrant, cette histoire de Commonwealth, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les bribes de l'empire colonial britannique.
Ouais.
Il y en a encore... la reine est encore...
La reine est encore chef d'État. C'est
en
vrai,
Australie.
C'est vrai aussi au Canada.
Ouais, et c'est vrai dans 16 autres pays.
L'Afrique du Sud aussi. C'est marrant.
Il y a encore un lien aujourd'hui.
Sri Lanka, Inde.
Ouais.
Non.
Je te jure.
Mais non, plus maintenant.
Mec, j'étais au Sri Lanka pas plus tard que moi. Il y a les portraits de la reine d'Angleterre partout, je te jure.
Non, mais en fait, il y a deux statuts dans le Commonwealth.
Oui, après, il y a les Dominion et il y a les Dominion. Voilà.
Mais ben, justement, même l'Australie, c'est Dominion jusqu'en 1901. Alors. Et en 1931, c'est le statut de Westminster. De Westminster, pardon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais où en gros les nations du Commonwealth sont désormais sur pied d'égalité. Donc en gros, elles ont leur pleine souveraineté. Ça fait partie du Commonwealth, mais l'Australie n'est plus un Dominion.
Mais alors, du coup, Dominion, juste pour dire, ce n'est pas les petits méchants bonhommes jaunes de Pixar, c'est le statut qu'on donne à ces colonies blanches qui va leur permettre d'accéder à une première autonomie. Donc 1901 pour l'Australie, mais en fait, il y a plusieurs règles successives. Donc tu parlais de celle de 1942, où maintenant il y a un grand pas encore en avant dans ce que peuvent faire politiquement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il faut attendre 1986 pour la véritable indépendance de facto d'un point de vue purement juridique, avec les Australian Acts qui disent que en gros les Britanniques peuvent plus décider quoi que ce soit pour les Australiens. Et donc en gros ils sont pas indépendants depuis si longtemps.
Quelle année t'as dit?
86.
86, ah ouais, d'accord.
Mais ce qui prouve bien qu'en fait ça veut rien dire.
Exactement.
Quoi.
Oui.
Parce que je crois que si tu regardes dans la Constitution, la reine d'Angleterre a légalement encore genre des pouvoirs, mais comme elle les délègue à un gouverneur et qu'en fait...
Parce qu'elle a la flemme, hein, il faut bien le dire. Hein.
Mais moi j'ai vraiment des doutes sur cette histoire de reine. L'Australie, d'accord, mais pas en Inde. La reine, elle n'est pas en Inde, c'est clair net.
En Inde, je ne sais pas, mais au Sri Lanka...
C'est l'ancien Commons. Aujourd'hui, en Australie, oui. Au Belize, oui. En Jamaïque, je dis oui. Et là, tu me montres le Commonwealth. Oui, mais ça, c'est l'ancienne carte.
Les contestations, ouais, écoutez, on
sera à Eratum la prochaine fois.
Spécial. On sera à Eratum. Bon, il faut vraiment éclaircir cette histoire, ça me tient vraiment à cœur.
Mais donc, en gros, c'est le début de la construction politique de l'Australie comme un État, de façon indépendante, et que ce n'est plus une colonie en tant que telle. Donc, en 1901, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se donne une constitution, dont parlait Johan. Et du coup, c'est la consécration d'un État un peu ouais, paradoxal en fait, entre d'un côté hyper en avance sur certaines sur certains aspects, donc notamment sur le droit de vote des femmes, sur des lois aussi d'encadrement de, du travail. Ouais. Ils ont la journée de 8 heures dès 1850, alors que en Europe, notamment en France et en Grande-Bretagne, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale.
Mais c'est le premier gouvernement travailliste élu au monde. Ouais,
c'est marrant, moi j'ai rien noté là-dessus, mais je me doutais que tu allais en parler.
Et le paradoxe, c'est que en même temps, c'est pour les blancs, parce qu'on spécifie dès le début une toute première loi qui parle du principe de l'Australie blanche, et donc par conséquent, on accepte tout à fait que il y a un régime à deux vitesses et que les aborigènes et autres populations immigrées de pas la bonne couleur n'auront pas les mêmes droits. D'ailleurs, l'apartheid d'Afrique du Sud s'inspire beaucoup des bonnes idées juridiques.
C'est marrant comme les idées circulent. Bah, comme oui. Ça.
Mais au sein du Commonwealth, on partage. Mais Australie, Afrique du Sud, on est tous frères, quoi, tu vois.
Ce qui justement est très intéressant, mais très triste, c'est que en fait, il y a justement cette idée que l'Australie, c'est absolument un pays calqué sur le modèle européen. Et en fait, du coup, tout est construit dans l'histoire contemporaine, tout est construit sur le modèle européen. C'est-à-dire, comme disait JB, 1901, paf, construction d'un État politique. Et qu'est-ce qu'on fait à l'époque quand on construit des États indépendants? Il faut construire une nation et un mythe national autour. Mm-hmm. Et donc, c'est à partir de cette époque-là que l'Australie va se dire, tiens, comment on peut fédérer notre nation? Et le premier événement de ça, c'est la participation de l'Australie qui n'a rien à voir
une
avec
guerre.
La Première Guerre mondiale. Genre, tiens, on avait envoyé nos soldats dans les tranchées françaises.
Ah, mais ça, c'est
et
pas
ils envoient,
bête, hein.
Ils envoient 400 000 soldats. Enfin, faut quand même se rendre compte du truc. Ils sont courageux, hein, les mecs.
Attends, quand tu vois qu'aujourd'hui,
là,
ils sont 23 millions.
Les aborigènes.
Ouais, c'est un gros bonhomme. Qu'est-ce que tu dis, pardon Marlène, j'ai pas entendu.
Non, rien, j'ai dit que là, ça les dérangeait pas d'envoyer des aborigènes.
Oui, parce que c'est toujours pratique, hein. Ça fait bien le ménage, la cuisine, tout ça. Ouais. Mais effectivement, c'est l'acte fondateur, et d'ailleurs, c'était le centenaire l'an dernier, puisque c'est en 1915 qu'il y a la grosse bataille dans laquelle les Australiens...
Gallipoli.
Voilà, Gallipoli, donc on est à l'entrée du détroit du Bosphore, c'est-à-dire devant la Turquie, entre la Turquie et l'Europe. Et à ce moment-là, en fait... en gros, les Turcs, ils sont d'un côté, et les Australiens, ils sont de l'autre, et ils vont gentiment se taper sur la gueule. Et ça va être une très, très grosse défaite. Mais ça reste un acte fondateur, parce qu'on a existé en tant que nation, on s'est battu,
mais complètement.
On est des grands.
Et moi, j'avais rencontré des Australiens qui se rendaient sur le lieu pour commémorer, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait de guerre le plus marquant pour les Australiens, quoi. Le mec, il avait la larme, il était en train de pleurer, les limites, quoi.
Et même après ça, même les tranchées françaises, hein, moi, j'ai vu que, donc sur les 400 000 soldats, il y en a à peu près 60 000 qui meurent pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est quand même beaucoup, et donc 46 000 uniquement sur le territoire français, quoi, dans les guerres de tranchées françaises.
Ils n'ont pas dû supporter le climat à l'époque.
Ça doit être ça.
Voilà, et du coup, c'est cette mémoire des Anzac, c'est le nom qu'on donne à ces soldats australiens et néo-zélandais, qui va être le premier ferment de cette conscience nationale de « on est un truc rien qu'à nous, quoi. Rien qu'à nous, mais sans ceux qui ne sont pas la même couleur. »
On est un truc rien qu'à nous, le problème, c'est qu'on est quand même très très loin, quoi, tu vois, et ça, c'est quand même problématique.
Et bah du coup, justement, pareil, là, ils ne s'inspirent plus de l'Angleterre, mais des États-Unis. Et on arrive plutôt après la Seconde Guerre mondiale, mais où ils se disent, tiens, ce serait cool que notre pays, on le dynamise un petit peu. Et donc là, ils font une politique d'accueil d'immigrants massive. Et,
j'avais pas encore entendu ce mot pendant l'épisode massive.
et bref, oui, t'as, je crois, depuis 45, 6,5 millions de personnes qui sont installées en Australie par les migrations, qui viennent de 200 pays différents. Et ça, c'est une politique qui va être mise en place après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 80-90, parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop la même limonade.
Et comment on s'affirme quand on a un pays aussi loin et qu'on est rallié, tous nos alliés sont au nord et qu'on est un pays du sud? Comment est-ce qu'on fait, Marlène? Dis-moi.
On crie très fort?
C'est ça, on crie très fort et on joue du didgeridoo.
D'accord.
Il va avoir une politique aussi d'alliance avec notamment les Néo-Zélandais, hein, qui sont les autres blancs pas très loin de nous.
Et qui sont encore plus loin que les Australiens.
Exactement,
c'est quand même
pire que soi. Et notamment, on a avancé du coup d'un grand pas en avant dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais nous emmener, Greg. Mais,
non, je ne sais pas. Non, pas forcément.
Moi, je pense à une alliance en fait militaire.
Déjà en 50.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un grand pas, hein. 51 même.
On était en deuxième guerre.
Oui, c'est ça, à peu près. On est correct.
Bon,
donc en 51, en fait, parce que c'est la guerre froide, parce que le communisme est partout, et parce que le danger est partout, parce que c'est la même chose, les Américains se disent, tiens, ce serait bien qu'on puisse avoir des poteaux qui nous verrouillent un peu le Pacifique et l'océan Indien au sud, donc on va signer un traité d'alliance avec eux, c'est-à-dire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et donc ça va aussi donner un rôle un peu géostratégique à l'Australie de surveiller un peu ce qui se passe.
En même temps, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que les Australiens allaient être plutôt du côté des États-Unis et des Britanniques. Je pense que ce n'était pas une grande surprise, quoi. Ils n'allaient pas virer coco au fin fond de leur île, quoi.
Non, bon. C'est sûr. Mais après, et ça a aussi une influence sur le mode de vie et l'urbanisation en Australie, cette influence américaine, parce que c'est justement à partir des années 50 que vont se développer, comme dans beaucoup de pays, mais de très grandes villes, mais sur le modèle américain, avec des centres-villes finalement relativement restreints et des banlieues très étendues où vivent la majorité des gens. Donc un étalement urbain très important et à la fois, en parallèle, se développent d'énormes ranchs à l'intérieur du pays.
Yeah,
voilà, donc non, mais sur un modèle d'élevage qui ressemble beaucoup à l'élevage aux États-Unis. Et tout ça soutenu par la motorisation à grande échelle.
D'ailleurs, c'est gros con qui roule à gauche. Ça, c'est quand même un petit peu emmerdant. Non, je me permets de le dire, parce que quelquefois, il faut s'engager politiquement. Enfin, qui roule encore à gauche, quoi?
Les Indiens.
Et le Commonwealth.
L'Afrique du Sud.
Il s'agirait de grandir.
C'est bizarre. Il faut vraiment se démarquer. Tout pour se démarquer, quoi. Des trucs à la con, quoi. Bref. Oui, donc il y a des grandes villes. Et puis d'ailleurs, en fait, ces grandes villes, c'est là où est toute la population. Encore aujourd'hui, mais même depuis le début, en fait.
90% de la population qui est dans les 15 grandes villes d'Australie. Donc on a vraiment assez vite en fait un taux d'urbanisation de la population qui est très fort.
Alors est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'époque moderne? Genre on a passé 1950, on peut faire un gros bloc genre 1950 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler des gens, comment ça se passe ou non?
On peut reparler, ouais, peut-être des juste refaire un petit point avant d'arriver à l'époque contemporaine sur les gens un peu qui vivent, quoi.
Mais justement,
les fameux,
ça n'a pas trop changé. Hein.
Non, ça n'a pas trop changé, mais du coup ça nous oblige à faire un petit retour en arrière.
Allons-y.
Sur justement ces relations entre colons et aborigènes et notamment le fait qu'en dehors du fait qu'ils disparaissent parce qu'il y a des maladies, etc., il y a quand même une politique australienne blanche qui est plus que raciste. Et voilà, certains historiens vont même jusqu'à parler
de turbo-raciste,
d'eugénisme. voilà, ce qui n'est pas pour rappeler des très bons souvenirs. Mais en gros, on parlait tout à l'heure de la Terre Vierge. La théorie donc, qui arrivait plus tard qu'à l'arrivée des colons, c'est de dire que c'est un concept juridique qui va être bien pratique et qui va être utilisé par des colonies autres que britanniques d'ailleurs. C'est de dire, grosso modo, dans un pays où les gens ne construisent pas de ville et où ils cultivent pas la terre, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a personne et donc la terre est à personne. Et du coup, ils vont utiliser ce principe-là pour dire, comme les aborigènes sont en fait des chasseurs-cueilleurs, c'est des gens qui ne cultivent pas la terre, et c'est des toutes petites communautés qui circulent un peu librement.
C'est des tribus, quoi.
C'est des tribus nomades, en gros. Du coup, ils vont s'installer et dire la terre est à nous, et c'est comme ça qu'ils vont lancer toute une économie, justement, qui est aujourd'hui basée énormément, alors c'est plus l'or essentiellement, mais sur le forage minier et voilà, le développement des mines à l'intérieur du pays.
Ça ne doit pas plaire à tout le monde, ça, notamment aux petites tribus qui sont au milieu, parce que je pense que s'il y a une mine juste en dessous d'un monolithe sacré, je pense qu'ils ne vont pas trop s'embêter pour percer, quoi.
Non, mais c'est ce qui a créé... Ouais.
Pardon, non, mais ce que j'allais dire, c'est que figure-toi que c'est notamment le cas, puisque les grands sites sacrés des aborigènes sont bizarrement tous les sites géologiques majeurs, et en fait, là où on trouve le plus de ressources, donc les conflits vont vraiment se matérialiser dans l'espace aussi, avec un conflit entre des aborigènes qui considèrent l'espace comme leur lieu sacré, et des Européens, des Australiens... anciens colons européens qui, eux, considèrent l'espace comme une ressource à exploiter.
En fait, t'as un peu la même stratégie qu'on trouve en Amérique latine, au Mexique, par exemple, où en gros...
Celle du Foucault
non, celle-là. Non, mais où il y a deux stratégies, c'est la terre, soit on exproprie la population qu'il y a dessus, soit on en fait ce qu'on appelle des réserves naturelles. On dit que c'est un site vraiment très très beau et quand même, ce que serait bien de le protéger. Et en fait, le protéger, ça veut dire en faire un espace qui appartient à l'État et plus aux communautés qui vivent dessus. Et donc, ça permet ensuite d'en faire ce qu'on veut, quoi.
Ça a été pas mal respecté, apparemment. Il y a eu des retours en arrière. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits sacrés où les mecs n'avaient pas le droit de monter, genre un monolithe, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Liars Rock, qui est un des monuments majeurs de l'Australie.
Uguru,
Loulou Uluru.
Mais je crois que depuis peu, les gens remontent dessus. Donc en fait, tout
ça va.
En fait, c'est pas si sacré. Maintenant qu'il n'y a plus personne qui vénère cette religion, c'est
alors,
moins
il
sacré.
Est où le problème ?
Moi, on n'a pas beaucoup parlé de la religion des aborigènes. On va pas, enfin, en même temps, personne s'y connaît vraiment. Mais il faut parler aussi un petit peu que c'est des. Il y a un terme qui s'appelle le rêve. Je pense que ça a été très mal traduit depuis l'aborigène jusqu'à l'anglais pour nous arriver en français, pour que ça arrive, le rêve. C'est la religion du rêve. Et il parle du serpent arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez noté ça.
Ouais, si, ce seraient des grands animaux, en fait, dans toute la cosmologie aborigène. Ce seraient des grands animaux qui seraient à l'origine de la fondation de la Terre, des étoiles, des massifs rocheux, etc. Et ce grand serpent dont tu parles, par exemple, il se serait un jour posé sur la Terre et c'est ça qui aurait créé le relief de l'Australie. Et voilà.
C'est probable.
Alors pour moi, l'Australie, ça ressemble plus à un masque que tu mets dans l'avion, tu sais, pour dormir. Là.
Un loup ?
Oui. Un masque de sommeil de l'avion.
C'est ce qu'il me plaît.
C'est la cosmologie de British Airways.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Bon, alors, pas de chance. Enfin, pas de chance. Les aborigènes, avec leur rêve, depuis le début, ils se font un peu chicoter, du verbe chicoter, qui vient de chicote. Et là, ça va être de pire en pire, en fait, quoi.
En fait, ce qui est assez drôle, dans la relation... on veut des Australiens blancs et on a un gros problème d'aborigènes qui ne sont pas très blancs, c'est que va se passer un truc, c'est que malgré toutes les interdictions et les mesures d'apartheid, on va avoir des premiers couples mixtes et donc des enfants métis qui vont commencer à naître. Et donc ça va poser un gros problème que Yannick Noah va bien sûr défendre, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants métis ? Et donc du coup, parce qu'on est aussi dans une société très british et donc très évangéliste, on se dit qu'on doit sauver l'âme de ces enfants-là, qui est une part de blanc en eux, donc il y a quelque chose à sauver. Et par conséquent, on va vraiment discriminer de façon très différente les enfants métis de ceux qui ne le sont pas. Et il va y avoir une pratique d'enfants volés. Ouais. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, on va enlever les enfants.
Jusqu'en 69, j'ai vu ça.
Ouais, c'est ça, au début des années 70, du coup. Et c'est environ 50 000 enfants qui ont été enlevés à leurs parents pour être confiés à des foyers blancs pour pouvoir du coup sauver leur âme.
Et ce qui est complètement dingue, c'est que c'est complètement ambivalent comme discours. À la fois, on les enlève, comme tu dis, pour sauver leur âme, et en même temps, on les enlève, mais c'est quand même pas vraiment des blancs. Donc du coup, ils ont juste le droit d'être des serviteurs dans la société blanche, quoi, d'être des domestiques, c'est ça.
Et il y a des classifications quand t'es après quand t'es à moitié, enfin quand t'es à moitié, je sais plus le terme, quand t'es à moitié, après quand t'es quand t'es un quart, tu deviens quarteron. C'est très précis, quoi.
Mais c'est pour ça que je parlais d'eugénisme tout à l'heure, en fait. C'est parce que
il y a une épuration ethnique vraiment. Ouais, c'est ça. Vous voulez blanchir la
population. Il y a vraiment, voilà, des théories du blanchiment de la population. Et c'est marrant, c'est développé aussi avec un autre type de personnage qui s'appelle, ça s'appelle les protecteurs des aborigènes. En gros, ça naît au milieu du 19e siècle.
Les grands frères.
C'est un peu des Pascal le grand frère. Et donc les Britanniques se disent, bon, ok, officiellement on va protéger les communautés, vérifier qu'elles ne soient pas spoliées de leurs terres, etc. Et en fait, en douce, c'est une manière de les encadrer et de contrôler leur développement. Donc leur développement démographique, être sûr qu'ils ne fassent pas trop d'enfants, contrôler leur déplacement, être sûr qu'ils n'aillent pas trop loin, et contrôler toute leur économie, donc être sûr qu'ils gagnent pas trop d'argent.
Ce qui est moins le cas aujourd'hui quand même. Il y a quand même un mouvement qui veut un petit peu protéger les aborigènes, même si...
Oui, comme ils sont plus que 2% dans la population totale, essaye de les préserver maintenant, c'est devenu un patrimoine.
T'as une espèce de forme de repentance qui naît à partir des années 70, où t'as différentes choses. Donc d'abord, t'as un référendum, je crois que c'est en 72. Est-ce qu'on accepte de comptabiliser la population aborigène dans le pays ? Donc c'est un oui massif, mais bon, c'est seulement en 1972. Et puis après,
t'as toute une politique du Premier ministre. T'as un Premier ministre un peu emblématique là dans les années 70 qui s'appelle Goog Whitlam. Alors, bon, il y a un problème de nom visiblement, mais ça, on va pas lui jeter la pierre. Qui notamment va aussi faire des premiers pas vers la reconnaissance de la propriété foncière et du droit à la terre en fait pour les aborigènes. C'est aussi à partir de là où juridiquement on va commencer à permettre, alors même si quelquefois il y a des retours en arrière quand on se rend compte qu'il y a du pétrole ou des trucs marrants en dessous, mais que les aborigènes ils ont un lien à la terre et que du coup ils ont le droit de récupérer des propriétés.
Mais dans le lien avec ça, c'est même encore plus tard, parce que c'est seulement en 92 que le terme juridique qui était dans la Constitution, hein, de terra nullius, dont on parlait tout à l'heure, donc le fait que la terre n'appartient à personne, c'est seulement en 1992 que cette loi elle est abrogée et qu'on enlève ce concept juridique. Et donc c'est seulement en 1992, après 200 ans de colonisation, qu'on dit oups, effectivement, on a un peu déconné, les gars, en fait, il y a de la terre qui vous appartient, quoi.
Et tout ça se finit en 1998 avec l'instauration d'une nouvelle fête nationale qu'ils appellent le Sorry Day. Donc ouais, c'est un peu la.
C'est
la
journée.
Non, mais c'est génial.
C'est la repentance.
C'est la journée désole. Voilà.
Et, désolé.
En gros, c'est bon, bah voilà, désolé les mecs, mais du coup, on fait
ça,
une fête nationale le 26 mai.
À la base.
Et pour s'excuser quand même de les avoir un petit peu spoliés, quoi.
C'est quel jour ça, le Sorry Day?
Le 26 mai 1998.
C'est un anniversaire, Yohan, non, pas loin.
Non, pas loin. Ouais. Mais ouais, effectivement, et tous les une fois par an, c'est bien pour fêter un génocide.
Du coup, est-ce que là, on est à l'époque moderne? On fait un petit point sur l'époque moderne,
c'est ça? Oui, on est en plein dans cette époque moderne.
Alors aujourd'hui, l'Australie, c'est quoi?
C'est un pays qui est très grand et très loin.
Ah, on est
mais maintenant, il y a l'avion.
Ça n'a pas changé.
Et du coup, il y a l'avion et il y a plein de gens maintenant qui commencent à vouloir y aller.
Du coup, ouais, c'est un pays qui, maintenant qu'ils ont tué tous les gens à l'intérieur, ils empêchent de venir les gens de l'extérieur. Donc,
voilà.
Après avoir eu, sans rigoler, après avoir eu une politique migratoire très inclusive dans les années, enfin, dans l'après-guerre, quoi. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même limonade. Et il y a des très beaux clips sur YouTube où tu as des espèces de capots australiens qui te montrent que you will not make Australia home.
Bah, ils font un peu comme tout le monde finalement, quoi. On avait besoin de gens après la guerre, puis là maintenant on n'en a plus très envie.
Alors même après la guerre, ils spécifiaient qu'ils voulaient des populations européennes. Donc c'est quand même assez marrant, et c'est uniquement à partir des années 70 qu'on dit ok, on peut prendre les autres. Mais au début c'était des étrangers, mais quand même un peu triés.
Mais tu sais, c'est un peu comme l'Afrique du Sud, quand t'es très très loin et que t'es entre blancs, bah au bout d'un moment tu deviens un peu dégénéré. Non, je déconne, ça va.
En tout cas, ils sont très très loin, mais c'est devenu vraiment les leaders en termes de politique migratoire.
Ouais,
c'est-à-dire qu'avec notre cher Premier ministre Tony Abbott, Premier ministre conservateur actuel,
il met des coups de bottes.
Il a décidé de lancer une opération qui s'appelle Frontières Souveraines. Et donc cette opération, elle est géniale puisque ça consiste à en fait intercepter les bateaux de migrants avant même qu'ils touchent l'Australie et même en fait à les retirer des eaux territoriales, à les chasser des eaux territoriales australiennes pour les amener vers d'autres eaux territoriales, par exemple en Indonésie, par exemple au Cambodge, que l'Australie paye grassement pour récupérer les réfugiés. Et aussi, ils ont décidé de faire une super politique d'externalisation des camps de rétention qu'ils font dans des petites îles comme la belle île de Nauru.
Ceci dit, on fait la même chose avec Lampedusa. Hein,
voilà,
en Europe,
c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ce truc, enfin, c'est pas du tout marrant d'ailleurs, mais ce truc-là est complètement illégal et il y a des petites tensions entre les gouvernements.
C'est vrai que c'est tellement loin qu'on
asiatiques.
Oublie tout ce qui se passe là-bas aussi, quoi. C'est ça le problème.
Et surtout, ils ont fait un truc génial, c'est que par rapport à la politique des réfugiés, ils ont décidé en fait que maintenant le statut de réfugié sera un statut provisoire, c'est-à-dire que c'est un statut qui maintenant ne dure que 3 ans en Australie. Donc là-dessus, ils sont encore une fois leaders sur ce genre de politique.
Donc tu peux être esclave pendant 3 ans
et après
tu
en fait, ils réévaluent, ils se disent ton pays finalement maintenant est plutôt sympa. Donc les Syriens, n'allez pas en Australie, en fait, apparemment, bon, c'est très loin déjà.
C'est
et puis en plus,
compliqué.
Dans 3 ans, vous serez sûrement obligés de repartir.
Ouais. Bon, on a une économie qui tourne plutôt pas mal, hein, franchement, c'est plutôt cool.
Ouais, avec plein de trucs dedans, plutôt tertiarisé, mais on trouve aussi un petit...
Bah, le secteur minier, toujours,
secteur
hein,
minier
bien présent.
Qui roule, et puis aussi le vin, hein, le vin australien qui a bien percé depuis les années 90. Aujourd'hui, c'est quand même 4 milliards d'euros dans le PIB et 300 000 emplois, donc c'est un bon gros truc, la
Vinasse. C'est un pays qui est très très cher aussi, hein. Moi j'y suis pas allé, mais... apparemment il faut vraiment
c'est
pour ça que je suis pas l'ami, il faut vraiment enfin le dollar australien est enfin il est très fort,
ouais.
Et si tu vas en tant que petit français, je pense que tu te ruines.
Et en plus de ça, malgré c'est assez contre-intuitif, mais malgré le fait que ce soit à moitié vide, le prix du foncier, donc de la terre, est en train d'exploser, et justement parce que les Chinois rachètent la terre à...
Encore les Chinois ?
Mais c'est un truc incroyable. Il y a une entreprise, là, en 2015 ou 2016, une entreprise chinoise qui a racheté les terres d'une entreprise australienne. C'est juste 1% du territoire, enfin, c'est énorme, qui était du territoire agricole, en fait, des terres pour les bovins, pour les faire paître. Et du coup, voilà, ça a été racheté par les Chinois. Et en fait, cette politique, elle est un peu systématique de plein d'entreprises chinoises qui viennent acheter du territoire pour l'agriculture. Ça fait exploser le prix des terres.
Voilà. On finit, évidemment, ça fait rêver quand même tous les petits Français qui veulent aller travailler, faire du fruit picking là-bas, c'est-à-dire devenir
esclave. Et du
didgeridoo. Du didgeridoo, mais ça, c'est quand t'as fini de fruit picker. Moi, j'en ai vu qui me disaient, ouais, c'était trop bien, j'étais en Australie, j'étais faire du fruit picking. Bah ouais, c'est-à-dire que tu t'es fait payer 2 dollars de l'heure. genre parce que t'étais français et t'as ramassé des bananes mais, super quoi.
Mais comme c'est beaucoup moins sexy de faire les abricots en Ardèche, du coup ils vont faire du picking en Australie.
Bon, ceci dit, il y a quand même des trésors à la fois de faune, de flore, et puis aussi bah, il y a la grande barrière qu'on évoquait.
Qui va bientôt disparaître, voilà, donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Voilà.
1,8 million de visiteurs par an. Donc bon, il y a des sites touristiques qui fait que c'est une destination qui reste hyper lointaine, et donc c'est un espèce d'Eldorado de frontières où tu as encore l'impression que tu peux vivre l'aventure en traversant le désert, par exemple, dans ton petit pick-up loué.
Absolument. D'autres choses, quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'Australie ou pas?
Moi, je voulais balancer les trucs sur le...
Arthacarivif, est-ce qu'on a cité Arthacarivif? Ah bah, il faut en parler. Je suis désolé, il faut absolument en parler.
Non, moi, je voulais chanter Kylie Minogue, mais on n'aura pas le temps.
Ouais, on a quand même dommage. Écouté Drazik pendant une heure, donc bon.
Ouais, ça, c'est vrai. Hein. T'es venu en roller, d'ailleurs.
Ouais, mais Anita n'était pas dispo ce soir, mais elle vous salue.
Voilà, bon bah on s'arrête là ou non? C'est yes, une vraie ouais, question que je vous pose.
Je pense que là ça suffit.
Ouais. Exactement, on a dit beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire sur le boomerang par exemple, mais peut-être qu'on vous lira si vous nous posez des questions, des commentaires.
Sinon écoutez Aurélien.
Merde, j'ai peur d'entendre en fond d'oreille du didgeridoo.
Sortez les bolas, c'est le didgeridoo.
On se dit à dans deux semaines.
Ouais,
dans deux semaines. Je vous emmène au restaurant dans deux semaines, ça va?
Ah, c'est vrai, ah génial, on va où?
On va au McDonald's.
Cool. Bon, bah alors à dans deux semaines.
Allez, ciao.
Bye bye.
Salut.